Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 3h30 en temps universel, 5h30 à Khartoum.
Pierre Boudias.
Et la terre a tremblé en Éthiopie. Évacuation hier dans le nord du pays après un séisme de magnitude 5,8. Depuis septembre, 67 secousses ont été enregistrées dans le pays. Les exactions des paramilitaires soudanais désormais cartographiées. Le New York Times et une équipe de chercheurs ont analysé des dizaines de vidéos prises par les hommes du général Emeti. Elles révèlent l'ampleur des violences commises par les forces de soutien rapide. La charge des églises contre les autorités malgaches continue de provoquer des remous. Autorités protestantes et catholiques accusent les élites de la grande île d'être coupées du peuple, un message qui porte dans un pays où la voix des religieux est particulièrement écoutée. Et puis, quelle place pour les femmes dans la politique aux Comores ? Malgré les promesses du président Assoumani, leur présence aux responsabilités reste marginale. Elles ne sont que 8 à se porter candidates aux législatives de janvier prochain. La terre a tremblé hier en Éthiopie. Plusieurs milliers de personnes sont en cours d'évacuation après une série de secousses sismiques dans les régions Afar, Oromia et Amara. La plus puissante a atteint une magnitude de 5,8. Cette zone est parcourue depuis des mois par des tremblements de terre répétés qui ont pu être ressentis jusqu'à la capitale Addis Abeba, située à plus de 200 km. Lisa Fabian.
Depuis le mois de septembre, au moins 67 tremblements de terre ont été enregistrés autour de la région d'Awash Fantale, en plein cœur du rift éthiopien où l'activité sismique est l'une des plus intenses au monde. Mohamed Hussein est à la tête de la commission de gestion des risques et des catastrophes en région Afar.
Ces phénomènes inquiètent de plus en plus les gens car la force des secousses ne fait qu'augmenter. Pour nous, la situation est alarmante et nous appelons les habitants à la prudence.
L'entrée en activité d'un volcan vendredi soir a fait monter l'inquiétude dans la région. Le cratère du Mont Dauphin a craché pendant quelques heures un mélange de gaz, de pierre et de terre à forte pression. Environ 2000 personnes ont déjà trouvé refuge dans les abris ouverts par les autorités éthiopiennes, alors que des experts ont été déployés dans la zone pour évaluer les dégâts.
Les gens étaient plutôt réticents à l'idée de quitter leur village, mais certaines maisons se sont effondrées, des écoles, des centres de santé ont aussi été endommagés. Donc nous regroupons les personnes affectées dans des logements temporaires dans la ville d'Awash et aux alentours.
Jusqu'à 80 000 personnes pourraient être affectées par ces activités sismiques et volcaniques accrues selon un communiqué des autorités éthiopiennes.
Lisa Fabian a noté qu'aucune victime n'a été recensée pour le moment suite aux secousses d'hier. Au Soudan, on en sait désormais plus sur les exactions des forces de soutien rapide, résultat du travail d'une équipe de journalistes du New York Times et de chercheurs open source qui ont documenté les activités des paramilitaires engagés depuis 21 mois dans une guerre civile contre l'armée régulière. Une enquête publiée cette semaine qui présente le visage des auteurs d'exactions et permet d'entrer dans la chaîne hiérarchique des forces du général Emeti. Pendant 6 mois, cette équipe a analysé des dizaines de vidéos prises par ces combattants FCR eux-mêmes. Date, lieu, responsable des massacres. Une véritable cartographie, Alexandra Branjon.
Des dizaines et des dizaines de vidéos prises par de jeunes combattants FSR et publiées sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Facebook. Souvent très jeunes, armes à la main, portant l'uniforme des paramilitaires, ces hommes se filment en situation. Ils prennent la caméra de leur téléphone à témoin, se vantent de leurs exploits, des villages qu'ils ont détruits, des hommes qu'ils ont tués et donnent des dates, des noms de villes, de quartiers et de responsables sur le terrain. Dans l'une de ces vidéos, un combattant filme une rue vide, des cadavres au sol. Nous sommes dans le quartier d'Al-Tarwa, à El-Janeina, dit-il, avant d'ajouter « Les Massalites ont été éradiqués avec succès, grâce à Dieu ». Dans une autre, un commandant justifie les viols commis par ses troupes. « Si nous violons vos sœurs et vos filles, c'est notre droit », affirme-t-il face caméra. L'équipe a d'ailleurs pu retrouver l'identité de cet homme. En recoupant les différents témoignages, journalistes et chercheurs ont pu identifier une vingtaine de commandants FSR, reconstituer leur structure hiérarchique et les responsabilités des uns et des autres. Des preuves visuelles précieuses dans l'éventualité d'une enquête internationale.
Alexandra Branjon, nouveau revers pour l'armée congolaise dans l'est de la RDC. La rébellion du M23 soutenue par le Rwanda s'est emparée hier de la ville clé de Masisi Centre, située à environ 80 km à l'ouest de Goma, capitale du Nord Kivu. Une conquête après de violents combats contre les FRDC et leurs alliés Wazalendo qui a entraîné des déplacements de populations désormais réfugiées dans les localités de Katale, Luchéberé et Bougouri. Une perte aussi stratégique que symbolique pour Kinshasa alors que la ville de Masisi Centre n'était jamais tombée face aux rébellions qu'a connues la région. La République démocratique du Congo, où les autorités ont annoncé le doublement du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il passera de 2,5 $ américains à 5 $ à partir du 1er février. Les syndicalistes du secteur public font part de leur satisfaction alors que la loi de finances de 2025 n'avait pas prévu cette revalorisation chez les privés. Les autorités espèrent que l'application ne souffrira d'aucune contestation car le patronat est co-signataire de cette revalorisation. RFI, il est 7h35 à Port-Louis, l'île Maurice, où l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a été brièvement arrêté vendredi dans le cadre d'une enquête pour détournement présumé de fonds publics. Arvesh Sigolam, depuis libéré, était visé par un mandat d'arrêt depuis mi-décembre. Il avait démissionné de ses fonctions peu après les élections législatives de novembre dernier, suite à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement, des autorités qui le soupçonnent d'avoir transféré illégalement une somme d'$1 million sur un compte bancaire à l'étranger. Précision à Port-Louis, Abdullah Erali.
L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a été arrêté vendredi à l'aéroport par la brigade financière. Arvesh Sigolam est soupçonné d'avoir orchestré le transfert illégal d'$1 million vers une société aux liens politiques douteux. L'affaire avait éclaté en novembre après sa démission au lendemain des élections législatives. La Banque centrale avait alors porté plainte pour escroquerie, évoquant l'existence d'un transfert suspect qui a eu lieu en pleine campagne électorale. La nouvelle direction de la Banque de Maurice est catégorique, il y a clairement eu des malversations. Cependant, l'ex-gouverneur avait déjà quitté le pays quand la plainte a été déposée. De retour, vendredi matin, il a été arrêté à sa descente d'avion. Après une nuit en garde à vue et un long interrogatoire, Arvesh Sigolam a été libéré hier sous une accusation provisoire de complot en vue d'escroquerie. Les enquêteurs s'intéressent de près désormais aux éventuelles complicités internes et explorent les liens qui pourraient exister avec certains milieux politiques. Abdullah Erali, Port-Louis. RFI.
Nous vous en parlions sur RFI cette semaine. À Madagascar, c'est un message cinglant des chefs d'église qui a inauguré la nouvelle année. À l'occasion de leur traditionnel vœu de bonne année, les deux plus influentes églises du pays, l'église protestante FJKM et l'église catholique, ont dénoncé une rupture entre l'élite dirigeante et le reste de la population. L'occasion également de faire référence en filigrane au manque de transparence des élections municipales du 11 décembre dernier. Alors que leurs résultats officiels n'ont pas encore été proclamés, la société civile et l'opposition conteste la sincérité du processus électoral et cette prise de position a de quoi faire réagir les tenants du pouvoir, estime Denis Alexandre Leiniriku, l'historien spécialiste des relations entre l'État malgache et l'Église, rappelle l'influence de cette dernière dans la société malgache.
À partir du moment où les Églises se positionnent, le message est clair pour la population. Parce qu'on considère les églises comme étant des réamandines, donc père et mère textuellement en français, donc des gens qui peuvent peser dans l'évolution de la vie nationale. Et là, on a quand même des églises qui disent que non, vous les dirigeants politiques, vous n'écoutez pas la population. Le discours du président de la principale composante du protestantisme malgache a été clair sur ce point-là. À son avis, les dirigeants politiques actuels ont manœuvré pour rester au pouvoir. Donc, c'est cette stratégie de rester au pouvoir coûte que coûte qui a été dénoncée. Le risque, c'est quand même l'exacerbation d'une éventuelle crise politique. Une fois qu'on perd le soutien du Rayamandine à Madagascar, on perd aussi, quelque part, la légitimité.
À propos recueilli par Pauline Le Troquier, la présidence malgache a déclaré que les attaques déguisées des représentants de l'Église n'étaient, je cite, pas à la hauteur des responsabilités qu'impose leur mission pastorale et ajoute être attentive aux préoccupations exprimées par l'Église, mais rester résolument concentrée sur les attentes de la population. Fin de citation. C'est un chiffre révélateur maintenant de la place des femmes dans la politique comorienne. Elles ne sont que 8 parmi les 107 candidats aux législatives du 12 janvier prochain. Autre signe révélateur de cette marginalisation, seuls 2 ministres sur 15 sont des femmes, dont la porte-parole du gouvernement est une seule gouverneure élue sur 3. Un contraste saisissant avec les déclarations du président Azali Assoumani qui prône régulièrement une plus grande implication féminine dans la gestion des affaires de l'État et des postes électifs. En pleine campagne pour les législatives jusqu'au 10 janvier, le débat est donc remis sur la table. Correspondance Abdallah Mzenbaba.
Pour le pouvoir, des progrès sont en marche pour la représentation des femmes. Houmed Msedié, conseiller politique du président Azali Assoumani, défend une dynamique prometteuse malgré certaines limites.
Les femmes s'engagent effectivement en politique pendant les campagnes, mais dès que les campagnes se terminent, elles ont tendance à laisser un peu de côté la politique. Mais ce qui est sûr, elles commencent aussi à prendre des responsabilités importantes au niveau de l'administration publique, des entreprises publiques et parapubliques. Donc le mouvement est là, la dynamique a été enclenchée par le président. Je crois qu'elle est en train de prendre.
Pourtant, cette dynamique est jugée insuffisante par Fatma Mohamed Elias, militante et membre de la société civile. Elle fustige une politique de façade et dénonce un réel manque de volonté.
On a déposé une loi à l'Assemblée pour la parité. Nous n'avons pas été gourmandes, on l'a mis à 40%. Cette loi n'a jamais été promulguée par le chef de l'État. Tous les gouvernements qu'il a mis en place, il y a toujours eu une figuration. C'est deux femmes au gouvernement. Je trouve que c'est désolant. Moi, je perds espoir à Zali, bien qu'il prône l'égalité, mais ça reste juste au niveau langagier, un discours qui n'a pas de suivi.
Même au sein du parti présidentiel, la parité n'est pas effective. En vue des législatives, la CRC est présente dans l'ensemble des 33 circonscriptions du pays, mais seules 5 femmes ont été alignées comme candidates titulaires. Abdelham Zembaba Mourouni, RFI.
La chef de file de l'extrême droite française attendue à Mayotte ce dimanche. Marine Le Pen entame aujourd'hui une visite de 2 jours sur l'île française, sur l'archipel français ravagé par le passage du cyclone Chido il y a 3 semaines. Alors que seule la moitié des foyers ont été raccordés à l'électricité selon les derniers chiffres des autorités, elle assure vouloir exercer une pression supplémentaire sur le gouvernement, l'exécutif de François Bayrou, qui a repoussé d'une semaine la présentation de la loi d'urgence qui doit permettre la reconstruction de l'archipel et le développement du département le plus pauvre de France. Et puis on jouait en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF hier. Les Tanzaniens du Young Africans enfoncent un peu plus le TP Mazembe. Les locaux vainqueurs 3-1 sur leur pelouse à Dar es Salaam. Avec seulement 2 points en 4 matchs, les Congolais voient la qualification s'éloigner. L'exploit du jour est venu des Algériens de Belouizdad, vainqueur 1-0 du tenant du titre Al Ahly. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Il est 3h41 en temps universel.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Afrique Matin sur RFI, Pierre Boudias.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 4h, temps universel de l'innovation au programme ce dimanche pour ces premières têtes d'affiche de l'année. Denis Sépoté choisit de mettre en avant 2 ingénieurs qui font avancer le continent. On la retrouve dans 5 petites minutes. Lecture également, et la rédaction vous propose ce dimanche cet ouvrage qui décrypte la stratégie de Vladimir Poutine. Poutine, Lord of War de Père de Jong, ou comment le maître du Kremlin a fait de la guerre une option réaliste. Son auteur est notre invité ce matin, mais avant, il est 4h41 à Rabat et nous prenons la direction du Maroc. Le royaume chérifien, devenu le refuge d'une petite communauté vénézuélienne en exil. Ils font partie du quart de la population du Venezuela qui en 10 ans a fui le pays, fuyant l'effondrement de l'économie et les dysfonctionnements politiques et démocratiques depuis 2013 et l'élection de Nicolas Maduro. 5 millions de Vénézuéliens ont migré, si la plupart ont rejoint la Colombie ou les États-Unis. Un petit millier a trouvé refuge au Maroc, parmi eux des artistes qui se sont intégrés comme professeurs de danse, chanteurs de bar ou musiciens dans les grands hôtels du pays. Reportage à Casablanca et Marrakech, signé François Hume Ferkataji.
Béatrice vient tout juste de terminer sa prestation dans une ambiance de fête. 3 fois par semaine à Casablanca, elle se produit dans différents bars de la capitale économique, alternant entre des tubes pop et des chansons vénézuéliennes. Elle est arrivée en 2013, à une époque où les artistes sud-américains pouvaient entrer au Maroc sans visa, grâce à une politique de coopération économique et culturelle entre le royaume et les pays d'Amérique du Sud.
Les Marocains adorent la musique latine. C'était très joli le projet d'amener des musiciens latinos de la Colombie, vénézuéliens et chiliens.
Partie pour un contrat d'un an au Maroc, elle y est finalement restée pendant plus de 10 ans jusqu'à aujourd'hui.
C'est un pays que je ne connais pas, la culture, et j'adore toutes les choses que je ne connais pas pour découvrir la gastronomie et comme ça. Et le Maroc, c'est un pays avec une sécurité exceptionnelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on a resté beaucoup de temps ici, à différence du Venezuela, par exemple, actuellement.
Environ 2000 Vénézuéliens auraient ainsi migré au Maroc, mais à partir de 2017, les tensions se sont considérablement accrues entre Rabat et Caracas, après que Nicolas Maduro a qualifié le Sahara occidental de territoire occupé. Les visas ont été rétablis, la moitié des Vénézuéliens résidant au Maroc ont quitté le pays, les autres sont restés, condamnés à vivre sans papier, comme Béatrice.
La majorité des Vénézuéliens sont partis, sont quittés le Maroc pour ça, parce que c'est insupportable d'habiter dans un pays sans papier. Il y a des familles, des enfants qui sont nés ici. Et finalement, c'est complexe la situation de Vénézuéliens ici. On a resté comme en prison.
Jorge est vénézuélien, musicien, batteur dans l'un des hôtels les plus luxueux de Marrakech. Il réside au Maroc depuis 2013. Bien qu'il soit très attaché au Maroc, il se retrouve aussi dans l'illégalité. Mais il s'accroche à l'espoir que Nicolas Maduro soit chassé du pouvoir prochainement pour que sa situation administrative s'améliore.
Vraiment, le problème, c'est Maduro. Vraiment. C'est difficile que le roi change avec Maduro. Donc on attend le prochain 10 janvier, c'est la limite pour Maduro laisser la présidence.
Le 10 janvier prochain, date programmée de l'investiture de Nicolas Maduro, l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia promet de reprendre le pouvoir. François Imperkataji, Casablanca, RFI.
Et à noter que le Maroc est devenu en août dernier le premier pays d'Afrique à adhérer à la déclaration internationale condamnant la situation au Venezuela, texte qui appelle au respect des valeurs démocratiques et à la liberté d'expression dans le pays. RFI, il est 3h45 en temps universel. Et à la une de l'actualité de ce dimanche 5 janvier 2025, 24 heures après le Hamas, Israël confirme à son tour une reprise des négociations au Qatar. Négociations indirectes entre l'État hébreu et le mouvement palestinien, chacun mettant en avant des priorités différentes. Le Hamas exige avant toute chose une cessation immédiate des frappes dans la bande de Gaza et un retrait des troupes israéliennes déployées dans l'enclave. Israël, de son côté, met l'accent sur la libération des otages, alors que des milliers de personnes manifestaient hier encore pour exiger du gouvernement qu'il obtienne ces libérations. L'agence de presse syrienne annonce que l'aéroport de Damas va rouvrir pour des vols internationaux. Les avions en partance et à destination de la capitale pourront de nouveau opérer après-demain. Selon l'agence Sana, ces vols étaient suspendus depuis pratiquement un mois et la chute du régime de Bachar al-Assad. Aux États-Unis, 6 jours d'hommage à Jimmy Carter ont débuté. Le cercueil de l'ancien président a d'abord sillonné sa petite ville natale de Plains dans l'état de Géorgie. Il sera ensuite exposé au public à Atlanta avant d'être transporté à Washington pour une nouvelle salve de cérémonie officielle. Et puis l'actuel président sortant des États-Unis, Joe Biden, devrait lui s'entretenir avec Edmundo González Urrutia. C'est l'opposant vénézuélien qu'il annonce après avoir rencontré ces derniers jours plusieurs dirigeants de pays d'Amérique du Sud. Il revendique toujours la victoire à la présidentielle de juillet, tandis que Caracas a promis 100 000 dollars de récompense pour quiconque aiderait à le capturer. Allez, comme chaque dimanche sur RFI, c'est l'heure de découvrir les têtes d'affiche de Denise Epoté. L'innovation à l'honneur cette semaine, tête d'affiche avec Alexis Guilleux.
C'est l'heure des têtes d'affiche. Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Alexis Guilleux.
Pour vos premières têtes d'affiche de l'année, Denise Epoté, vous avez retenu deux innovateurs originaires de l'île Maurice et du Cameroun. Alors d'abord, diplômé d'ingénierie télécom de l'IMT, Ashley Gozer a conçu Hub2, une plateforme pour l'interconnexion des paiements dans 6 pays.
Pour résoudre l'absence d'interopérabilité entre les systèmes de paiement existants, mobile money, carte bancaire, transfert bancaire et crypto-monnaie quand elle existe, il manquait une plateforme. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, Ashley Gozer a mis au point Hub2 pour Hub to Africa, une API unique destinée aux entreprises désireuses de conquérir le marché africain. Parmi ses clients, il compte des néobanques, des sociétés de microfinance, des prestataires de services de paiement et de transferts internationaux basés en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso et au Togo, qui affichent tous un taux de satisfaction de 98%. À l'horizon 2027, Hub2 sera présente à Madagascar et au Sénégal et couvrira ainsi toute l'Afrique francophone. Début décembre, lors de la première édition des Ivoire Innovation Awards, organisé par le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation en Côte d'Ivoire, la start-up a été élue meilleure start-up de l'année.
Deuxième tête d'affiche, Denise Epoté, la Camerounaise Amélie Ngonanga, qui a mis au point une gamme de produits cosmétiques et de compléments alimentaires destinés aux personnes atteintes d'albinisme.
Née d'une mère atteinte d'albinisme, c'est pour elle qu'Amélie Ngonanga décide de devenir esthéticienne, cosméticienne, afin de trouver des solutions pour protéger sa peau sensible aux effets néfastes des rayons du soleil. Après des années de recherche, avec le concours de grands laboratoires, elle met au point une gamme de produits à base de glutathion, surnommé le roi des antioxydants. Bon pour la peau, mais également pour l'organisme, grâce à ses propriétés qui renforcent le système immunitaire et protègent contre le vieillissement prématuré. La chef d'entreprise conçoit des produits adaptés aux peaux hypersensibles, une alternative aux produits blanchissants ou abrasifs vendus sur le marché. Produits en France, les soins photoprotecteurs au glutathion, qui font barrage aux radicaux libres, et les gommages à base d'actifs naturels marins, sont distribués dans 21 pays, en Afrique, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Amélie Ngonanga a fait de la cause des personnes atteintes d'albinisme un combat qui l'amène aux quatre coins du continent pour tenir des conférences et venir en aide à des associations. Pour elle, l'albinisme est une condition qui nécessite une attention particulière, non seulement pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes concernées, mais aussi pour promouvoir une compréhension et une acceptation plus large par la société. Le 8 novembre, au Sénat à Paris, Amélie Ngonanga a reçu le GIFA d'or dans la catégorie « Entreprise innovante ». Le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun vient de lui décerner le prix de la meilleure marque de Nutri Cosmétique.
Merci Denise Epoté et à la semaine prochaine.
Et merci à vous Alexis Guilleux. Dans 5 minutes, nous serons au cœur des Alpes suisses pour une exposition qui mêle profane et sacré. Mais avant, comme chaque dimanche et à 3h50, temps universel, le conseil lecture de RFI. Et l'ouvrage que la rédaction a choisi de vous présenter aujourd'hui s'intitule « Poutine, Lord of War ». Cet essai est une plongée au cœur de la vision de la guerre imposée par le chef du Kremlin. Père de Jong, docteur en sciences politiques et cofondateur de l'Institut Temis, détaille l'agenda du président russe qui a intégré les conflits comme des options réalistes. Pierre de Jong répond aux questions de Franck Alexandre.
Bonjour Père de Jong.
Bonjour.
Et l'on découvre la psychologie de Vladimir Poutine pour qui la guerre froide n'a en fait jamais cessé.
En fait, il l'a dit très clairement. Hein. Il y a quelques années, il a dit en fait la Russie n'a jamais perdu la guerre froide parce qu'elle n'a jamais cessé. La guerre aujourd'hui qui se déroule en Ukraine, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Et la relation qu'il met en place avec l'OTAN, avec les États-Unis, avec l'Occident d'une façon générale, est en fait le retour de la guerre froide telle qu'il l'a connue avant 1989 et telle qu'il l'imagine pour l'avenir.
Tout commence d'ailleurs à Berlin lorsque Vladimir Poutine s'appelle Platov.
Novembre 1989, Platov, qui est en fait Vladimir Poutine, est dans l'immeuble du KGB. L'immeuble à côté, c'est l'immeuble de la Stasi, en train d'être détruit par des manifestants qui se vengent en fait sur le pouvoir est-allemand. Platov observe ça avec ses collaborateurs. Ils sont 7 dans une pièce au deuxième étage. Il essaie d'avoir de l'aide de ses ou des informations de ses chefs qui en fait sont occupés à brûler des papiers quelque part. Donc en fait personne lui répond. Et donc Platov prend une arme. Il descend rez-de-chaussée et là il se met face à la foule vociférante et il leur dit très clairement: cet immeuble qui est derrière moi est un immeuble soviétique. Je suis un officier soviétique, donc vous ne rentrerez pas. J'ai une arme à la main, j'ai 12 cartouches, il y en a une qui est pour moi, les autres sont pour vous. La foule se calme, elle fait demi-tour, elle recule et il remonte au deuxième étage et Platov redevient Poutine ce jour-là.
Vladimir Poutine, en fait, violent et rassurant. Toujours.
Oui, il a pris beaucoup parce que ce choc qu'il a eu, où il a pris un risque majeur physiquement, enfin personnellement, il l'a reproduit et on voit bien que dans ses interventions, il est toujours extrêmement menaçant, mais toujours extrêmement calme, extrêmement froid. Et en fait, c'est vrai qu'il essaye d'émettre un message qui est en même temps violent et en même temps rassurant. C'est pour ça que c'est un homme compliqué. Les chefs d'État qui l'ont approché, en général, en retirent une sorte de malaise quelque part.
Très vite, Vladimir Poutine place autour de lui ses boyards, ses chefs de guerre, à l'instar de Prigogine et qu'il supprime également.
Poutine est un modèle extrêmement étrange. En tout cas, il a intégré les principes de la guerre. Son principal principe, c'est l'économie des moyens. Il est sur un modèle minimaliste. Et pour faire une guerre minimaliste, il y a deux choses qu'il faut faire ou pas faire. La première chose, il ne faut pas qu'il y ait de conscription. Il ne faut pas que la jeunesse russe soit liquidée sur le front ukrainien. Donc, il fait attention. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ses boyards. En fait, ce sont ses sociétés militaires privées. Et Wagner en est le plus connu, mais il y a des centaines de sociétés militaires privées actuellement en Russie qui sont en fait des agents d'exécution en fait de la politique de Poutine. Quand Prigogine prend de l'ampleur, et ben le tsar de toutes les Russies décide de se séparer de son vieux boyard, mais quelque part, en fin de compte, probablement sous la pression de son environnement, et probablement qu'aujourd'hui, Prigogine lui manque.
Des boyards donc au service d'une ambition, il y a l'Afrique, bien sûr, et puis cette alliance sans limite avec Pékin. Poutine a une stratégie et il a de la bouteille.
Il coince un vieux chef d'État parce qu'il arrive aux affaires exactement en 2000, donc il a exactement 47 ans. Et donc ça fait quand même beaucoup d'années. Aujourd'hui, il a 72 ans. Donc il a appris le métier, il pratique les rapports de force depuis longtemps. Donc lui, dans son esprit, il y a trois niveaux de réflexion. Le premier niveau, c'est le niveau de la protection de son flanc ouest, de son glacis ouest. Donc c'est la guerre en Ukraine, c'est l'interdiction que l'Ukraine et la Géorgie rentrent au sein de l'OTAN. Le deuxième niveau, c'est un combat, je dirais, euro-asiatique, dans lequel il a une alliance extrêmement ferme avec Pékin. Ça, c'est un vrai changement diplomatique et géostratégique dans le monde. Cette alliance extrêmement bizarre qui n'existait pas auparavant et qui maintenant existe et qui peut même se développer au travers de la création de ce qu'on appelle la coopération de Shanghai, qui peut devenir quelque part un OTAN bis, en tout cas un OTAN asiatique. Et puis le troisième niveau, ça c'est une vraie réussite de Poutine, il faut le souligner, c'est qu'il s'inscrit dans une logique de Sud global contre l'Occident collectif. Et ça, c'est le choc frontal de deux cultures, de deux modes d'action dans lesquels nous, Européens, on n'a pas la clé. On réagit nous trop fortement par rapport à eux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les pays du Sud, l'Afrique a un regard par rapport à nous extrêmement distancié, travaillé au corps évidemment par les Russes.
Un mot sur la dialectique nucléaire, l'ambition du Kremlin, c'est également restaurer la peur en Occident.
Oui, bien évidemment. Le problème, c'est qu'en fait, l'armée russe, entre guillemets, n'a cessé de chuter depuis les années 90, sauf dans un seul domaine, qui est le domaine des missiles. Donc, il est aujourd'hui très dominant dans ce domaine-là, probablement meilleur que les Américains. Donc, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on voit bien que dans la diatribe de Poutine, il met en place tout de suite le fait qu'il domine dans le domaine du nucléaire et dans le domaine des missiles et dans le domaine des vecteurs. Et il s'appuie là-dessus pour inquiéter l'OTAN et l'Occident.
Poutine, l'heure de voir aux éditions Mareuil. Merci, Père de Jong.
Et merci à vous Franck-Alexandre. Le livre international tous les dimanches sur RFI, tous les conseils lecture de la rédaction sont à retrouver sur www.rfi.fr, rubrique livre international. Et comme promis, nous prenons la direction du cœur des Alpes suisses à la découverte d'une exposition qui entend réconcilier l'art contemporain avec le divin. Rien de trop beau pour les dieux. C'est son nom réuni à la Fondation Opale des œuvres contemporaines de tous les continents, imprégnées de spiritualité et de croyance. Si la religion et la foi font partie de l'art classique occidental, l'art contemporain, lui, s'est décrété laïque. Et Jean-Hubert Martin, le commissaire de l'exposition, a voulu contrer cette règle, Muriel Malouf.
Hôtel Vaudou, impressionnant, avec ses 43 statues dédiées à Mamiwata, la déesse d'Afrique de l'Ouest. Un autre, cumulant aussi les personnages et statuettes pour le culte de Kimbanda au Brésil, entre tradition précolombienne et catholicisme, font partie des installations majeures de l'exposition orchestrée par Jean-Hubert Martin.
La mondialisation a fait qu'on a enfin ouvert les vannes, si je puis dire, à des artistes venant de continents et de croyances et de traditions complètement différentes. Et on fait que ce monde de l'art contemporain est en train de changer énormément en ce moment.
Une mondialisation qui permet aussi aux artistes de mêler les apports culturels. Ainsi, Hervé Yumbi, l'artiste camerounais, s'est inspiré pour son masque de Scream, le film d'horreur de Wes Craven, un masque de fantôme issu du cri d'Edward Munch. De même, il inverse les pratiques issues de la colonisation. Les collectionneurs occidentaux se procurent en effet des objets issus des rituels pour les exposés. Hervé Yumbi commence d'abord par exposer ses créations avant de les intégrer au rite.
Je produis des masques hybrides qui sont destinés dans un premier temps à être exposés et après qui retournent dans l'univers rituel. Et donc là nous avons un spécimen de masque Tso qui a été conduit dans un village dénommé Fondanti, c'est à l'ouest Cameroun. Quand je dis conduit, c'est conduit dans l'univers rituel.
Le rituel que les artistes s'approprient, la chilienne Sandra Vasquez, reprend des éléments d'hôtel vaudou dans son œuvre contemporaine en céramique, composée d'une pyramide d'assiettes où percent des yeux, des visages. La coréenne Kim Suja présente, elle, un jukebox, véritable syncrétisme sonore, d'où jaillit des chants grégoriens, musulmans et tibétains. Les artistes aborigènes sont aussi présents dans la fondation Opale qui leur est dédiée au départ. Quatre hommes créent in situ une peinture au sol. Georges Petitjean, commissaire.
La pratique de faire de l'art ne peut pas être dissociée de la culture, de la religion. Donc, ces œuvres parlent de la terre, du pays, de ces artistes. Et il y a plusieurs mythes qui sont racontés dans ces œuvres. Ce que nous appelons mythes, eux, ils appellent cela « je cours pas » ou des rêves.
Une exposition qui repousse les frontières de l'art contemporain et le décloisonne.
Muriel Malouf, exposition à découvrir à la Fondation Opale jusqu'au 20 avril. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Édouard Dupénoit et Laurent Hérault, à la rédaction en chef et à la réalisation. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal international, Le Proche-Orient à la une.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Un recueil de nouvelles étranges et un anniversaire pour notre première émission. Gaëlle Octavia sera notre invitée pour L'étrangeté de Mathilde T. Aux côtés de l'écrivaine Jean-Noël Schifano de Continent Noir, la collection qu'il a révélée et qui souffle cette année ses 25 bougies.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Psychologie, faut-il poser certaines limites en termes de gentillesse?
Mardi.
Le rôle de la réglementation alimentaire pour notre santé.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.